Antidote, une émission qui vous propose une cure de désintoxication mentale par la lecture et la réflexion, des pistes de réflexion à partir de l'analyse d'un ouvrage, juste histoire de ne pas penser en rond et de se laisser bousculer. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue pour cette nouvelle chronique d'Antidote. Alors, lors de ma dernière chronique, je vous parlais des auteurs que je vais vous présenter tout au long de l'année, et j'insistais sur la différence entre radicalité et extrémisme. J'ai étrangement été rattrapée par l'actualité. En effet, on a beaucoup parlé de radicalité dans les journaux ces dernières semaines, et notamment à propos des primaires écologistes. Il y a eu comme une surenchère parmi les candidats à celui qui serait le plus radical. C'est bien sûr plus respectable que de parler d'extrémisme. Il me semble que George Orwell, qui fait l'objet de la chronique de ce jour, pourrait nous aider à y voir plus clair. L'élément le plus significatif de la radicalité de George Orwell, c'est qu'il échappe à toutes les classifications. Par nature, il n'entre dans aucun des compartiments de l'histoire intellectuelle et politique. Il ne se plie à aucune norme de la pensée politique. Revendiqué par tout le monde, Orwell échappe à toutes les chapelles. La radicalité d'Orwell, comme toutes celles des penseurs vraiment critiques, ne s'accommode donc pas de la politique politicienne et électorale. L'électoralisme pousse par nature à la surenchère, alors que la pensée vraiment critique creuse dans les racines. Enfin, la radicalité, et on va le voir avec Orwell, est le contraire de la simplification, voire du simplisme électoral. Elle est indissociable de la complexité. Je laisse donc là nos candidats au pouvoir pour m'intéresser plus en avant à George Orwell. Et nous allons faire un petit détour par sa biographie, qui va nous permettre de mieux cerner justement cette complexité. Une biographie couplée à sa bibliographie, parce qu'on va le voir, c'est très important dans le cas de George Orwell. Alors George Orwell, son vrai nom, c'était Eric Blair. Il est né en 1903. Son père est fonctionnaire colonial. Il grandit dans une famille de la classe, qu'il dit lui-même, moyenne inférieure. Pauvre parmi les riches, en quelque sorte. Et le but de sa famille, comme de cette classe-là, est de s'élever socialement avec une peur constante du déclassement. Pour sa famille, ce sont les études qui constituent le moyen de progresser socialement. Et donc, il s'agit d'entrer coûte que coûte dans un établissement prestigieux pour en sortir avec assuré d'une carrière dans l'administration, l'armée ou l'église. C'est comme ça qu'à l'âge de 14 ans, Eric Blair donc, intègre le collège d'Eton. Et il décrira cette expérience, ces années-là, dans un texte « Prep School ». Dans lequel il dénoncera avec véhémence le caractère sordide de la vie scolaire. Régie, dit-il, par la férocité, le ressentiment et la loi du plus fort, un triomphe permanent du fort sur le faible. Mais Eric Blair, plutôt bon élève, finira par s'adapter et par devenir, selon ses propres termes, un odieux petit poseur prétentieux méprisant le bas peuple. Après ses débuts dans la vie, il n'intégrera pas l'université, il va choisir de suivre les pas de son père et de s'engager dans la police impériale des Indes. Il a 19 ans, on est en 1922, il s'embarque pour la Birmanie. Et là, eh bien, il va découvrir une autre forme d'humiliation et d'oppression, mais cette fois-ci, c'est lui qui en est l'agent. C'est à lui que revient la tâche d'assurer l'ordre, de briser les résistances, d'écraser les indigènes, de punir, de pendre, d'emprisonner. Ce début dans la vie d'Eric Blair vont beaucoup jouer dans sa conscience politique et dans le fait qu'il devienne écrivain, parce qu'en effet, il va être saisi de dégoût, il va prendre l'impérialisme en haine et s'éveiller à la politique et devenir un adversaire résolu de l'autorité. Ces questions de l'impérialisme, il les évoquera dans de nombreux textes, et notamment dans Burmese Days, qui est paru en 1934. En 1927, donc 5 ans après, donc il a 24 ans, et il démissionne et revient en métropole. Il va être hanté par cette culpabilité, cette mauvaise conscience d'avoir agi ainsi. Il est hanté par les visages des hommes qu'il a rudoyés, frappés, humiliés, et il décide alors de faire un pas de côté et de rejoindre la foule des opprimés, des laissés pour compte. Pendant 5 ans, il va partager l'existence des vagabonds, des demi-clochards, de ceux que Hugo appelait les misérables et Marx le lumpenprolétariat. De cette expérience, il va tirer son premier livre paru en 1933 sous le titre « Dans la dèche à Paris et à Londres ». Après cette expérience de 5 ans, il poursuit son immersion dans les milieux populaires en se rendant dans les pays ouvriers et miniers du nord de l'Angleterre. Et il tirera de cette expérience un ouvrage magnifique, « Le quai de Wigan », dans lequel il se positionne comme socialiste, c'est la première fois qu'il utilise ce terme-là, tout en fustigeant les intellectuels bien-pensants du Parti travailliste qui se disent socialistes ou révolutionnaires, tout en méprisant un peuple qu'ils refusent de côtoyer. C'est dans ce livre, Le Quai de Wigan, qu'apparaît pour la première fois la notion de « common decency », terme que l'on peut traduire par « décence ordinaire », qui va devenir centrale dans les réflexions et les écrits d'Orwell. Enfin, une autre expérience dans sa vie, ça va être Barcelone, qu'il rejoint en 1936 en pleine révolution. Il va y respirer un air de liberté et d'égalité qui constitue pour lui l'essence même du socialisme. Mais il va également être le témoin de la politique contre-révolutionnaire des communistes staliniens et il va sortir de cette expérience un ouvrage « Hommage à la Catalogne » dans lequel il décrit à la fois cette ère de liberté et d'égalité, mais également il va dénoncer de façon virulente cette contre-révolution stalinienne. C'est cette expérience qui va faire de lui, qui était déjà antifasciste, également un anti-stalinien. Et il va faire du coup de la question du totalitarisme un élément central de sa réflexion. Et c'est là que nous en venons bien sûr aux ouvrages les plus connus d'Orwell, auxquels malheureusement on le réduit souvent. Je veux parler de La ferme des animaux et surtout de 1984. Dans La ferme des animaux, Orwell décrit ouvertement l'évolution catastrophique du communisme de la révolution vers l'oppression. Et donc il décrit un régime dictatorial. Alors que dans 1984, c'est plus au totalitarisme, au pluriel, qu'il s'attaque. On ne saura jamais, bien sûr, ce qui se serait passé après l'écriture de 1984, puisque cet ouvrage, publié en 1949, est publié très peu de temps avant la mort de George Orwell, qui meurt jeune à 47 ans d'une tuberculose en 1950. Je voudrais terminer sa bibliographie, par un livre peu connu, paru en 1939, un livre très peu connu, qui est publié d'ailleurs sous le nom d'Eric Blair. C'est le seul livre qu'il a édité sous ce nom-là, et qui révèle une autre facette de l'auteur. Le titre du livre, c'est « Un peu d'air frais », c'est un roman qui raconte l'histoire d'un employé d'une compagnie d'assurance qui décide de s'évader de son quotidien et de revenir dans son village natal. Mais il ne reconnaît plus les lieux de son enfance, tant tout a été dégradé par la société industrielle, et la question alors se pose, comment faire et où vivre? Dans cet ouvrage, Orwell exprime l'angoisse face à la dégradation de l'environnement et à l'envahissement du monde par des objets laids, inutiles et trop nombreux. Nous allons faire, avant de continuer, une petite pause musicale.
Bateaux panaméens, marchands d'armes français, tueurs américains, matériel japonais, capitaux catholiques, call girl asiatique. Big Brother is watching you. Big Brother is watching you. Dans les dents, les paupières brûlées, voyageurs du serpent, des déserts cendrés, les prisons sont fertiles et la vie si fragile. Big Brother is watching you. Big Brother is watching you. La CIA surveille le magot, il y a le KGB qui fait ton numéro. Et si tu leur fais face, ils te tireront dans le dos. Big Brother.
good.
It's watching you. Big brother.
No good.
It's watching you.
On se balade dans de petits lingots, de New York à Lausanne en passant par Rio. Et tu verses à l'épargne et tu verses à l'impôt.
Big brother, it's watching you. Big brother, it's watching you.
T'es vivant, camarade, ça vient d'être un délit. Fais ton autocritique sur ton crâne poli. Inscris ton matricule, numéro du zombie.
Big brother is watching you. Big brother is watching you.
Big brother te regarde son œil de plâtre. Parano et livide, décervelé, noirâtre. On arrive bientôt, 1984.
Big brother,
no good.
He's watching you. Big brother, he's watching you.
Je t'aime au plus profond, au-dessus des salauds. Et aurais-je le temps de trouver mon îlot avant que dans le ciel ne revienne à nouveau.
Big brother is watching you. 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 Big brother is watching you.
Après cette présentation de George Orwell, je voudrais maintenant tenter de faire une synthèse impossible, bien sûr, de sa pensée et surtout voir en quoi elle peut nous être utile à la compréhension du monde actuel. Pour ça, je retiendrai trois éléments, à mon sens, essentiels. Le premier élément, c'est la notion de décence ordinaire. Il parle également des gens ordinaires. Pour Orwell, les ouvriers ont une meilleure compréhension du sens et de la nécessité de l'émancipation sociale. Ils considèrent que le socialisme est conforme au bon sens le plus élémentaire, on pourrait dire au bon sens populaire, et les ouvriers l'identifient à la justice et au respect de soi. Alors Orwell utilise cette notion des gens ordinaires, donc pour la première fois dans les Quais de Wigan, mais aussi dans de nombreux textes, et on peut en dégager la définition suivante, et somme toute assez simple. Les gens ordinaires, ce sont les personnes qui ne participent pas, en tant que classe, à la domination de leurs semblables et ne cherchent pas davantage à y participer à titre individuel. Les gens ordinaires, ce sont ceux qui vivent dans la décence ordinaire ou décence commune, que l'on peut définir comme la pratique quotidienne de la solidarité collective dans une société où les habitants partagent un minimum de valeurs en commun. Cette décence qui est le contraire de l'indécence tellement présente parmi les dominants. Cette indécence qui vient du désir de s'élever au-dessus de ses semblables ou de s'enrichir à leurs dépens et qui conduit toujours ceux qui en sont possédés à accepter à un moment ou à un autre que la fin justifie les moyens et à abandonner tout scrupule. Cette indécence, nous le savons tous, et le spectacle médiatique quotidien nous le prouve abondamment, trouve son terrain d'élection chez ceux qui ont des distinctions à maintenir et des privilèges à défendre, c'est-à-dire en premier lieu chez les classes dirigeantes. Mais on peut trouver dans les textes d'Orwell une réflexion. Il nous précise en effet que personne, dans la pratique, n'est protégé par ses origines sociales contre les tentations de l'indécence, et que donc chacun peut facilement s'écarter de cette décence commune. Aujourd'hui, le libéralisme a envahi toutes les sphères de la société. Or, selon les théories libérales, c'est l'égoïsme des humains qui constitue le fondement idéal de la société moderne, les mécanismes du marché autorégulé, la fameuse main invisible, se chargeant ensuite automatiquement de convertir les vices privés en vertus publiques. Depuis deux siècles, Les libéraux se sont donc employés à valoriser en chaque individu sa part la plus égoïste, celle de l'intérêt bien compris, et à faire de chacun de nous des petits capitalistes en puissance, toujours prêts à écraser l'autre dans un jeu de concurrence généralisée. On peut comprendre que la décence commune a du mal à résister à cette pression permanente. À l'époque de George Orwell, dans les classes populaires, on pouvait encore retrouver beaucoup de cette décence commune. Mais aujourd'hui, même dans les classes populaires, les plus exploitées, les plus dominées, l'aliénation à la pensée dominante est telle que nombreux sont ceux qui ne pensent qu'à s'élever au-dessus de leurs conditions, à copier les modes de vie des dominants et ainsi peu à peu à perdre cette décence commune qui est pourtant la qualité première des gens ordinaires, des gens du peuple. Pour lutter contre le capitalisme et le libéralisme, et je crois que Orwell aurait suivi certainement dans cette voie, capitalisme, libéralisme, qu'il soit économique, culturel ou politique, la meilleure chose que nous ayons à faire est de retrouver à la fois individuellement et surtout collectivement cette notion de décence ordinaire. C'est de dédaigner les puissants et de retrouver en chacun de nous notre vraie richesse, celle qui nous donnera le pouvoir d'agir, c'est de revenir des gens ordinaires. Cette notion de gens ordinaires et de décence ordinaire est extrêmement d'actualité aujourd'hui. Le deuxième élément à retenir, selon moi, de la pensée de George Orwell porte sur la question du totalitarisme. Lors d'une intervention à la BBC, il disait « Nous sommes entrés dans l'ère de l'État totalitaire qui ne laisse et probablement ne peut laisser à l'individu quelque liberté que ce soit. » Pour lui, contrairement aux orthodoxies du passé, le totalitarisme régente la pensée mais ne la fixe pas. Le cœur même du totalitarisme tient à la destruction de l'idée de vérité objective, à la dénégation de la réalité objective. Dans 1984, le contrôle total des individus, permis par l'alliance de la technologie et de la police de la pensée, s'accompagne d'un contrôle et d'une réécriture constante de l'histoire pour aboutir à la domination totale sur les êtres et le passé. L'État totalitaire mène une destruction minutieuse, lente et patiente du langage. Tu feras la jonction parce que je cherche ma page. Il faut prendre mes lunettes. En effet, le roman d'Orwell, 1984, s'achève par un appendice sur les principes du Noflang, dans lesquels il décrit la structure et les objectifs de cette grande opération de simplification de la langue. Celle-ci doit assurer au régime sa domination définitive en rendant impossible l'expression d'opinions non orthodoxes. Le vocabulaire est classé en trois grandes catégories : les mots nécessaires à la vie quotidienne, les mots fabriqués à des fins politiques, les termes scientifiques et techniques. Langue révolutionnaire, le Novlang vise l'extinction de la langue et de la pensée ancienne. Il s'agit de tuer l'expression, de broyer la langue et avec elle les restes d'humanité et de mémoire d'un autre monde devenu impossible. On ne peut que constater à quel point cette question de la destruction du langage qu'Orwell développe est aujourd'hui plus que jamais d'actualité, y compris, et ça c'est important, dans des États dits libéraux et démocratiques. Ce qu'Orwell avait compris dès son époque, c'est que le totalitarisme pouvait arriver sous une autre forme que celle de la dictature, qu'il pouvait s'accommoder d'une démocratie formelle et non réelle. Il nous faut noter d'ailleurs que tous les penseurs qui ont développé cette idée, ils ont été assez nombreux depuis les années 40 jusqu'à nos jours, ont été ostracisés ou, comme c'est le cas d'Orwell, réduits à simplification. Aujourd'hui, dans la période actuelle, plus que jamais, on doit se interroger sur cette question, bien sûr, d'une société de surveillance, d'une société où les mots sont transformés. Et il ne faut pas se ramener 1984 uniquement à ça, il ne faut pas ramener Orwell uniquement à ça, bien sûr, mais c'est un des éléments importants, en tout cas, lutter contre le totalitarisme. Le troisième élément, alors moins connu dans la pensée d'Orwell, mais qui me semble vraiment d'actualité également, elle porte sa critique du productivisme. On l'a vu, il en parle dans l'ouvrage, donc son roman, Un peu d'air frais, mais il en parle également dans énormément de textes. il va formuler une critique aiguë du productivisme, du machinisme déshumanisé. D'ailleurs, 1984, c'est bien ça aussi, déshumanisé et artificiel, fabriqué par la société industrielle. Je cite Orwell, « Seule notre époque, l'époque de la mécanisation triomphante, nous permet d'éprouver réellement la pente naturelle de la machine qui consiste à rendre impossible toute vie humaine authentique. Pour lui, la machine est l'ennemi de la vie. Sa promesse d'un monde douillé, je cite là aussi, d'un monde douillé à l'usage des petits hommes grassouillés n'est qu'une illusion pouvant tourner au cauchemar. » Finalement, on pourrait trouver dans tous ces textes, dans cette critique du productivisme, un certain Orwell écologiste. Mais l'écologie n'est jamais détachée pour lui de la question sociale. Et on le voit, autant son socialisme est loin du socialisme institutionnalisé, autant son écologie va également être loin de l'écologie institutionnalisée. Finalement, ces trois éléments, que sont l'antiproductivisme, l'antitotalitarisme et la décence ordinaire, forment, combinés ensemble, la définition du socialisme selon Orwell. Alors je vous propose d'aller un petit peu plus loin dans la connaissance d'Orwell. Vous trouverez différents ouvrages, alors je ne vais pas les nommer parce qu'il y a quand même, beaucoup d'ouvrages, hein. Différents ouvrages d'Orwell, des plus connus aux moins connus, vous pouvez en trouver à la bibliothèque municipale de Florac, également auprès du Fonds documentaire de Savoir en Chantier, qui est situé dans les locaux de L'Encrier, toujours à Florac, un café associatif. Et bien sûr, vous pouvez vous les procurer auprès de votre librairie. De nombreux ouvrages d'Orwell sont aujourd'hui en poche et sont quand même relativement faciles d'accès. Enfin, je vous propose de venir approfondir les questions abordées dans cette chronique le dimanche 24 octobre à 18h à L'Encrier, où nous aurons ensemble une causerie, un petit débat, une discussion autour justement de George Orwell et autour du texte que je viens de vous présenter. Il me reste à vous dire que la prochaine chronique d'Antidote nous permettra de découvrir ou redécouvrir ensemble la philosophe Simone Veil. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt. Antidote, une émission qui vous propose une cure de désintoxication mentale par la lecture et la réflexion. Des pistes de réflexion à partir de l'analyse d'un ouvrage, juste histoire de ne pas penser en rond et de se laisser bousculer.